Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, Pâques s'en vient tout doucement et nous allons donc nous rappeler quelle est la signification de Pâques. Pour un grand nombre de personnes, malheureusement, la fête de Pâques se résume en simplement un bon repas en famille, avec si possible de la viande d'agneau. Je ne suis pas convaincu que chacun sait expliquer pourquoi est-ce qu'on mange de l'agneau à Pâques, quel est le rapport. Pour les enfants, ben c'est les cloches qui apportent les cocognes. Et c'est la chasse aux œufs dans les jardins. Alors, bon, c'est bien gentil, c'est bien sympathique. Moi, j'aime bien de voir mes petites filles qui se promènent dans le jardin, qui cherchent après les œufs. Bon, c'est amusant. Mais cela nous éloigne fort de la vraie signification de Pâques, de la fête de Pâques. Alors, c'est un peu comme Noël, c'est pas un peu, c'est tout à fait comme Noël. Malheureusement, à Noël, le Père Noël, les sapins, les guirlandes, les boules de Noël, tout ça a supplanté Jésus. La vraie signification de Noël, c'est la naissance de Jésus, bien sûr. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui en sont conscients. C'est la même chose pour Pâques. Pâques aussi, je serais curieux d'interroger les personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils fêtent au juste. Alors pour nous chrétiens, la Pâques a une signification de loin beaucoup plus importante que simplement les cocognes, les cloches. Pâques nous rappelle un événement qui est un fondement de notre foi. C'est la mort de Jésus. Alors, je vous propose de nous rappeler un peu ce qui s'est passé lors de ce qu'on appelle la passion de Jésus, donc les derniers moments de Jésus. Alors, on ne va pas lire tout parce qu'il y a quand même beaucoup et ça ferait long. Mais on va essayer de lire quelques passages significatifs pour nous remémorer ces événements qui ont eu lieu, donc ces derniers moments de Jésus passé sur notre terre. Alors, je vous propose de commencer par... on va lire dans Luc, au chapitre 22. Alors, je vous propose de lire au verset 1 à 13, la chambre haute. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. En effet, ils craignaient le peuple, donc ils complotaient en secret pour voir comment on pouvait faire mourir Jésus. Ils craignaient le peuple, pourquoi? Parce que le peuple aimait Jésus, il était populaire, donc, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui. Judas se joint à la conspiration. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alors, donc, on voit ici que les Juifs complotent, ce sont surtout les chefs religieux, qui n'aiment pas beaucoup la popularité de Jésus, qui un peu obscurcit la leur. Et donc, ils veulent le faire mourir. Alors Judas se joint donc à cette conspiration et il va aller livrer Jésus pour de l'argent. Alors ensuite, nous avons les disciples qui préparent la Pâque. À partir donc du verset 7, les disciples donc préparent la Pâque. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Alors, donc, ils préparent la Pâque. Et dans cette chambre haute, Jésus va prendre un dernier repas avec ses disciples. Et nous allons le voir plus loin, il va instaurer ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Cène. Toujours dans le chapitre 22, au verset 39, donc après avoir mangé avec ses disciples, Jésus s'en va prier dans le jardin de Gethsémané. Et les disciples le suivent. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc nous voyons ici que Jésus est 100% Dieu, mais il est 100% homme aussi. Et dans son 100% homme, évidemment, ce n'est pas très réjouissant, parce qu'il sait ce qui va lui arriver et les souffrances qu'il va devoir endurer. Et aussi, tout ce péché qu'il va devoir prendre sur lui, la coupure avec le Père, et tout cela, l'angoisse, et un ange lui apparaît donc pour le fortifier. Donc Jésus a besoin aussi d'être fortifié, puisqu'il est aussi 100% homme. Ensuite, Jésus est arrêté. Toujours au chapitre 22, mais à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc Jésus est arrêté, mais d'après ce qu'il dit ici, on sent bien que c'est lui qui se livre volontairement. Nous allons y revenir. Ensuite, bon, on ne va pas lire tout, hein. Jésus est comparé devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, donc, c'est le tribunal des religieux, des chefs religieux. Et il comparé devant le Sanhédrin, qu'il interroge et dit, bon, donc tu affirmes que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, bah oui, si tu le dis, oui. Ah, ben, qu'avons-nous besoin d'autre chose, d'une autre preuve? Ben voilà, il se dit le Fils de Dieu, c'est déjà un blasphème. Donc, il mérite la mort. Mais seulement, les Hébreux, donc les Juifs, ne pouvaient pas mettre à mort un condamné. Il faut se rappeler que, à ce moment-là, le pays est sous la domination de l'Empire romain. Et donc, ils sont soumis à l'autorité de Rome. Et ils doivent passer par l'autorité de Rome pour condamner à mort quelqu'un. Donc, ce n'est pas eux qui peuvent le faire, ce sont les Romains. Alors, donc, il l'envoie devant Pilate. Pilate, qui est le gouverneur, et qui est bien embêté. Bon, il a l'air bien embêté, il n'a pas trop envie de tremper dans cette histoire, parce que pour lui, bon, ces histoires de religion et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Et il dit, moi je vois rien de coupable dans cet homme, mais la foule insiste. Alors apprenant que c'est un Galiléen, il se dit, ah ben chouette, c'est un Galiléen, donc, ce n'est pas ma juridiction, c'est celle du roi Hérode. Alors, il envoie Jésus vers le roi Hérode. Alors, Jésus comparaît devant Hérode, mais celui-ci, au départ, il est intrigué, il avait envie de connaître ce fameux Jésus dont tout le monde parle, mais puis finalement, il est déçu et même il commence à se moquer de Jésus, il le méprise et il le renvoie chez Pilate. Alors donc, retour chez Pilate. Alors Pilate, il est embêté, d'autant plus que son épouse lui a dit, écoute, n'aie pas d'affaire avec cet homme-là, parce que j'ai fait des rêves cette nuit, et cela m'a tourmenté, ne fais rien contre cet homme-là. Mais Pilate, il est tenu par son rôle de gouverneur, et il a des comptes à rendre à César, à l'empereur de Rome. Alors il voit que la foule est excitée et il a très peur d'une insurrection, d'une émeute. Alors finalement, il propose, comme veut la tradition, de libérer un prisonnier. Alors il demande à la foule de choisir, et la foule dit « Crucifie Jésus, libère Barabbas ». Alors donc Pilate, craignant une émeute, donc, parce qu'il est responsable de la paix dans cette partie de l'Empire romain, et donc il doit rendre des comptes à l'empereur. Et s'il y a émeute, insurrection, ça veut dire qu'il n'est pas capable de tenir son rôle. Et alors, finalement, il cède à la volonté de la foule. Alors, nous nous dirigeons vers la crucifixion. Avant ça, bien sûr, Jésus subit des moqueries de la part de ceux qui le détiennent. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Nous lisons au verset 63. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Alors, nous arrivons à la crucifixion. Luc 23, à partir du verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous !» Et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà donc le récit de la crucifixion de Jésus. Alors, ensuite, Jésus va être mis au tombeau. Nous sommes toujours dans Luc 23, à partir du verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Alors, on va s'arrêter là, mais l'histoire n'est pas finie. On va s'arrêter ici, donc. Jésus est mis au tombeau. Alors, c'est bien de connaître l'histoire de Jésus, de connaître ces événements. Ah oui, Jésus, oui, je connais, oui. Mais est-ce que on comprend la signification de tout cela? C'est bien de connaître, mais c'est mieux encore de comprendre. Alors, pour comprendre, je vois deux questions. Je me pose deux questions. Premièrement, pourquoi Jésus a choisi d'accomplir sa mission, son sacrifice, sa mort, le jour de la fête de Pâques? Alors, je dis bien, il a choisi. Donc, ce n'est pas un hasard. Il a choisi. Ça l'a fait partie de son plan. Il a choisi donc de mourir pendant la fête de Pâques. Ce n'est pas un hasard. Rien de ce que Jésus fait, rien de ce que Dieu fait n'est dû au hasard, mais cela procède d'un plan préétabli. Albert Einstein répondait à un de ses collègues qui disait que l'univers fonctionne selon des lois anarchiques, aléatoires, qu'il n'y a pas possibilité de comprendre comment ça fonctionne. Et Albert Einstein lui répond, Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne fait rien par hasard. Et si Jésus est mort à Pâques, c'est qu'il y avait une raison. Pourquoi donc ce moment précis? La fête de Pâques, il faut se rappeler que c'est d'abord, en premier lieu, c'était une fête juive. Donc, les Juifs commémorent un événement de leur histoire, un événement important de leur histoire, de l'histoire de leur peuple. Pâques, chez les Juifs, c'est Pessah. Pessah qui a par après donné le mot Pâques. Pessah, ça peut se traduire par quelque chose de comme passer au-dessus. Passer au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Quel rapport? Eh bien, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, donc parce qu'ils avaient quitté leur pays pour aller en Égypte, à cause d'une famine dans leur pays, ils avaient été en Égypte, et par après, avec le nouveau pharaon, ils étaient tombés en esclavage. Et Dieu va demander à Moïse de faire sortir le peuple, son peuple d'Égypte. Et donc, Dieu va, pour contraindre, pour pousser le pharaon à accepter que le peuple puisse sortir d'Égypte et rentrer chez eux, il va infliger différentes, les fameuses plaies, les 10 plaies d'Égypte. Et dans la dernière plaie, Dieu va envoyer un ange exterminateur qui va passer au-dessus de l'Égypte et qui va faire mourir tous les premiers-nés de chaque famille, tous les enfants premiers-nés. Alors il demande, par l'entremise de Moïse, il demande aux Juifs de tuer un agneau, voilà, l'agneau pascal, de tuer un agneau et de badigeonner avec le sang de l'agneau le linteau de la porte de leur maison, afin que quand l'ange va passer, eh bien, il reconnaîtra que c'est une maison où il y a des Juifs, et donc il ne fera pas mourir l'enfant qui sera là, ou les enfants qui seront là. Et donc, ça explique Pessah passer au-dessus. Donc, l'ange passe au-dessus de cette maison sans faire mourir l'enfant. Alors donc, les Juifs, à l'occasion de cette fête de Pâques, se rappellent que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Donc le peuple hébreu qui était en esclavage. Alors, pour les Juifs, cette fête, cela peut se résumer par les mots libération, délivrance. Délivrance donc du joug des Égyptiens. Délivrance de l'esclavage. Alors, quel rapport avec le sacrifice de Jésus? Quel rapport avec notre Pâque à nous, chrétiens? Alors, on a dit la fête des pains sans levain. Donc, nous avons lu la fête de la pâte sans levain. Alors, pourquoi sans levain? Qu'est-ce que le vin, qu'est-ce que ça signifie? Pour les Juifs, le levain, cela rappelle le péché. Le péché. Alors, pour nous, chrétiens, eh bien, nous aussi, nous sommes libérés, délivrés, mais non pas du joug d'homme, mais du joug du péché. Nous sommes libérés du péché. C'est ce que nous pouvons lire dans Romains au chapitre 6. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc, voilà le parallèle que nous pouvons faire, et cela répond à la deuxième question. Pour les Juifs, donc, ils se rappellent qu'ils ont été délivrés de l'esclavage des Égyptiens, donc la sortie d'Égypte. Pour nous, chrétiens, eh bien, à la Pâque, on se rappelle que Jésus est venu, il est mort sur la croix pour nous délivrer du péché. Et c'est donc la réponse à la deuxième question. Deuxième question, pourquoi Jésus devait-il mourir? Depuis que nos lointains parents dans le jardin ont désobéi à Dieu et que par là le péché est entré dans le monde, le péché a contaminé toute l'humanité jusqu'à nous. Et nous sommes tous porteurs de ce péché. Et nous sommes impuissants pour nous en délivrer. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous délivrer de ce péché. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, et uniquement par grâce, parce qu'il ne nous devait rien, et Dieu, il n'a personne au-dessus de lui, il n'y a personne qui peut lui faire des reproches. Donc, Dieu, par grâce, a donné son fils Jésus pour qu'il prenne la punition que nous méritions sur lui. Jésus est donc mort pour nous libérer de l'esclavage du péché. Alors on comprend mieux maintenant le rapport avec la fête de Pâques. On comprend mieux maintenant pourquoi Jésus a choisi de mourir, de faire son sacrifice au moment de la Pâque. Alors, la Pâque des Juifs le rappelle donc l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël. Cette alliance, elle est basée sur la loi de Moïse, sur les sacrifices qu'il faut faire pour couvrir les péchés. La Pâque chrétienne, la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus a instaurée lors de ce dernier repas, cette sainte scène que nous allons partager, elle est basée sur le sacrifice parfait de Jésus. Le sacrifice de Jésus efface le péché. Il ne couvre pas le péché, il efface le péché. Il n'y a donc plus de nécessité de faire des sacrifices, de faire des offrandes. Le sacrifice de Jésus suffit amplement pour effacer notre péché. Et donc nous sommes justifiés, purifiés par le sacrifice de Jésus. C'est ça la nouvelle alliance. Je me trompe de feuille. Alors, nous en étions restés à Jésus qui a été mis au tombeau. Alors, ça aurait été vraiment triste si l'histoire devait s'arrêter là. En effet, si Jésus était mort et était resté dans son tombeau et n'était pas ressuscité, eh bien, nous n'aurions aucune espérance. Dans 1 Corinthiens, au verset 15-17, Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, bien alors nous non plus, nous n'allons pas ressusciter. Et donc, notre foi est vaine, nous n'avons plus aucune espérance, nous sommes les plus malheureux des hommes. En effet, c'est important de se rappeler la mort de Jésus, les souffrances de Jésus qu'il a endurées pour nous. C'est important, mais on n'en reste pas là, parce que autrement, ce serait bien triste. Hein. Alors, nous allons lire plus loin la fin de l'histoire. Luc 24. Donc nous avons laissé Jésus dans le tombeau et nous allons voir ce qu'il va se passer ensuite. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alors voilà, donc l'histoire se termine par la résurrection de Jésus. Le tombeau est vide. Et c'est ce qui fait notre espérance aujourd'hui. C'est le fondement de notre foi. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure aussi à Pâques pour que nous puissions comprendre que cette mort, elle est notre délivrance. Pâques, pour les Juifs, était la délivrance de la servitude des hommes. Pour nous, Pâques est la délivrance par rapport au péché. Alors, voilà ce qui fait notre espérance, notre consolation. Et grâce à ce que Jésus a accompli, nous sommes maintenant justifiés. Si nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous sommes justifiés, purifiés. Nous pouvons nous présenter devant Dieu sans crainte, car nous savons que nous pouvons entrer dans sa présence. Amen. Alors, je vous propose de partager, même si ce n'est pas en présentiel, de partager une sainte cène, donc qui nous rappelle ce dernier repas que le Seigneur Jésus a partagé avec ses disciples dans cette chambre haute lors de la fête de Pâques. Alors nous allons relire toujours dans Luc au chapitre 22 à partir du verset 14. Donc Jésus avec les disciples sont dans la chambre haute et ils vont partager ce dernier repas. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant: « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous sommes assemblés ici, non pas en présentiel, mais unis par le même esprit, le même amour, Seigneur, que tu as mis dans notre cœur. Nous sommes unis pour te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce corps qui a été livré pour nous, pour notre salut. Merci pour ce corps qui est représenté par ce pain. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Seigneur Jésus, te remercions parce que tu as versé ton sang pour nous. Tu as été immolé sur cette croix de Golgotha, Seigneur, afin que nous soyons purifiés, lavés de ce péché. Merci parce que ton sacrifice nous délivre de l'esclavage du péché dans lequel nous nous trouvions. Seigneur Jésus, merci d'avoir été jusqu'au bout, malgré l'angoisse qui t'étreignait dans le jardin. Seigneur Jésus, te disons encore merci. Amen. And